When I wake up in the morning, love, and the sunlight. Je suis Anne Bousserla. Bienvenue dans les Grands Samuse, transmission intergénérationnelle sur Aligre FM. Ce soir, Nicolas Vial est mon invité pour la sortie d'un livre de ses carnets de voyage dans l'océan Indien. Je rappelle que vous êtes dessinateur de presse, dont 32 ans au monde, vous êtes peintre et vous avez été intronisé peintre officiel de la marine en 2008. Le Musée national de la marine vous avait confié la réalisation d'une fresque murale en 2002. Puis s'est enchaînée une exposition au pavillon des navires du Musée de la Marine de Venise en 2005 et au Musée national de la Marine de Brest en 2006. Dans le monde de Vial, on plonge dans l'exotisme, la mer, les chats, les vieux cargos, les lieux abandonnés, les îles éparses. Votre créativité est portée par votre soif d'aventure et d'odyssée. Amateur de Dinky Toys, voiture de collection miniature, vous embarquez en avril 2021 sur un modèle Maus costaud, un brise-glace nommé l'Astrolabe. De couleur Rosso Corsa, couleur des voitures de courses italiennes comme la célèbre Ferrari, il avance à vive allure au large de Madagascar. Pendant 26 jours, vous avez observé, peint, vécu à la cadence marine à bord de ce patrouilleur français. Vous en avez tiré un beau livre rassemblant 6 carnets de gouaches, aquarelles et encres à paraître aux éditions Chêne le 7 décembre, le lendemain de la Saint-Nicolas, préfacé par Sylvain Tesson, qui avait embarqué comme écrivain de la marine auparavant. Dans sa magnifique préface, il y a une phrase que je vais vous lire tout de suite. Vial, c'est le douanier Rousseau qui aurait avalé une plante carnivore. Vous racontez votre voyage pour le magazine Le Chasse-Marée qui sort début décembre. Vous entretenez une correspondance avec Pierre-Julien Dumonde qui relate ce périple sur son blog Du Monde Philatélie au quotidien. Ce soir, nous mettons les voiles vers des îles lointaines avec vous, le temps de notre émission. Bonsoir Nicolas Vial.
Bonsoir Anne.
Je suis ravie de vous retrouver pour une deuxième fois chez Aligre FM. Lors de notre première émission, vous caressiez le rêve de partir au Kerguelen à bord d'un navire. Est-ce que c'est un rêve à moitié exaucé?
Absolument. Moi, je tiens juste à une petite précision. C'était en 2022 que je suis allé sur les îles éparses. C'est récent.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Non, vous avez dit 21, mais c'est pas grave.
2022.
En fait, tout s'est fait à l'arrache, très rapide. Ouais. Et donc, au départ, même je pensais aller en Antarctique. J'ai déjeuné avec mon éditeur Emmanuel Levallois, le patron du Chêne. On était allé à la closerie, puis je vous raconte mon futur périple sur l'Astrolabe, le brise-glace français. Pour aller dans ma tête à moi en Antarctique. Et puis il me dit, écoute, c'est trop bien, je te commande un livre, on va faire un livre, ça va être très bien, tes carnets de voyage, tu vas raconter ton histoire. Je partais à 31 jours. Et puis une semaine avant le départ, j'apprends que je vais autour de Madagascar faire une rotation autour des îles éparses, des petites îles françaises qu'on a, qui sont magnifiques. Alors je l'appelle et je lui dis, écoute, il y a un petit problème, je ne vais pas du tout en Antarctique. Et il me dit, mais non, mais écoute, on fait le livre, c'est bon. Voilà, donc tout s'est fait à l'arrache, mais j'ai fait un voyage magnifique, incroyable.
Donc ça ne vous a pas inquiété de partir comme ça au dernier moment dans,
non, mais là-bas, à Madagascar, j'ai été reçu par le général qui commande tout le Pacifique Sud et qui m'a dit, vous savez, au dernier moment, le programme peut encore changer.
D'accord, donc c'était de l'imprévu, ouais, dans le prévu.
Donc on est parti avec un brise-glace, c'est-à-dire le brise-glace moderne, l'Astrolabe, qui date de 2017, qui a un fond plat pour aller sur la glace, l'écraser et faire le sillage. Et on est allé au milieu de l'océan Indien, là où on est parti de l'île de La Réunion, il y avait beaucoup de houle.
Ouais.
Un bateau qui a un fond plat, on peut imaginer que ça roule beaucoup. Et le commandant était hyper sympa avec moi, j'avais une cabine, la cabine de l'invité, c'est-à-dire le préfet maritime ou l'amiral ou l'invité, et qui est tout à l'avant du bateau, tout en hauteur. Donc la cabine, on a le plus le mal de mer. Et j'ai pu vérifier que je n'avais pas le mal de mer.
Donc, vous avez eu une grande chance.
Une chance inouïe, parce que je ne le savais pas.
Ouais.
Donc, j'ai fait beaucoup de bateaux jeunes où je n'avais pas le mal de mer, mais je pensais que depuis, les choses avaient pu changer.
Donc le voyage a bien commencé.
Ah, ça a bien commencé, puis j'ai bien aimé la mer forte, en fait.
Et alors, j'ai une question avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Où est votre uniforme de peintre de la marine? Je pensais que vous alliez venir avec ce soir.
Ah oui. Bah, je vais vous étonner, mais je ne l'ai même pas amené sur le bateau.
Vous ne l'avez pas amené sur le bateau?
Non, je suis né en civil.
Vous êtes venu en civil. Ouais, alors, vous étiez une sorte de, sur ce bateau, une sorte de Corto Maltese. Vous êtes comme un marin chercheur de trésors. Vous avez un côté aventurier comme ça, bourlingueur.
Non, au début, je suis arrivé sur ce bateau qui fait 72 mètres, où il y a 30, on est 30 à peu près, 30 marins.
Oui.
Et il y avait 4 filles et le reste, c'était des hommes. Et je suis arrivé comme le jour où je suis arrivé pour la première fois de ma vie au pensionnat. J'étais quand même assez angoissé. Je ne connaissais pas trop les codes de la marine.
Les codes, oui.
Il y a plein de codes qu'on ne connaît pas. Et ils ont été très indulgents et très gentils avec moi. Personne ne m'a jamais fait rien remarquer, mais la longue, en observant, j'ai vu ce qu'il fallait faire. Par exemple, on ne dit pas « bonjour commandant », on dit « commandant, bonjour ».
Commandant, bonjour.
C'est des détails, mais il y en a plein, des détails comme ça.
Donc, vous avez appris vraiment tous les rituels de la marine.
Et bon, j'avais ma cabine, je ne comprenais pas pourquoi j'avais un haut-parleur dans ma cabine. Mmh. Je me disais, puisque moi, je fais mes carnets de voyage et tout ça, je n'ai pas besoin de savoir tout ce qui se passe. En fait, c'est comme ça. Par exemple, à 6h15 du matin, ça hurle dans votre chambre, branle-bas, branle-bas.
Tout le monde debout.
Ouais. Et puis un quart d'heure après, vous devez être...
Donc vous aviez le même rythme que l'équipage.
Ouais, exactement.
Vous étiez obligé d'avoir ce rythme pour être vraiment dans
Alors je suis tombé sur un bateau bien commandé, un commandant hyper sympa, qui avait naturellement, tout le monde lui obéissait, quoi. Et puis tout le monde le trouvait cool et...
Ouais.
Et il était aimé de tout son équipage.
Avec une gentille autorité.
Ouais, c'est ça, une autorité qui n'avait pas besoin, dont il n'avait pas besoin de se servir.
Oui.
Et l'équipage était très sympa. J'ai appris aussi l'esprit d'équipage.
Oui.
Qu'on est tous dans le même truc.
Oui, parce que finalement, vous êtes un marin solitaire. Enfin, vous êtes un dessinateur solitaire.
Oui, moi, je suis un dessinateur. Donc, je travaille toute ma vie toute seule.
Vous êtes tout seul, donc vous n'êtes pas habitué à être avec une équipe, avoir des règles, suivre...
J'avais peur aussi de la promiscuité, mais dès que j'ai su que j'avais une cabine tout seul et tout...
Ça vous a rassuré?
Oui, je me suis dit, c'est bon, je m'enfermerai.
Si jamais, quand j'en peux plus.
Il n'y a pas eu de problème et c'était vraiment sympa.
Donc le reste de l'équipage était là pour une mission
Il y avait plusieurs missions, dont la plus importante était de retirer le plastique de toutes ces îles, parce que c'est des îles magnifiques, avec du sable blanc, des coraux, des poissons. Mais il y a du plastique qui est drossé par la mer et qui arrive sur les plages, des tongs, des brosses à dents, des briquets en plastique. Et il y a un gendarme sur l'île qui ramasse, qui fait le tour de chaque île tous les jours. Des fois, il ramasse une tonne de plastique, alors que ce sont des îles hyper propres. Et ce plastique vient d'Afrique, de Madagascar d'ailleurs. Et donc on a ramené je ne sais pas combien de tonnes de plastique, entre autres.
Donc vous avez aidé aussi à ça ou c'était... Non, c'était pas votre boulot.
Non, c'était pas mon boulot, j'étais observateur. J'ai proposé l'idée, mais on m'a dit non, ça va.
Donc vous êtes aussi, on voit dans vos dessins de presse que vous êtes assez sensible à l'environnement, hein. Vous avez beaucoup dessiné, notamment.
Oui, depuis que j'ai commencé, j'étais étudiant en Beaux-Arts, le deuxième dessin que j'ai fait dans le monde, c'était il y a très très longtemps, en 1982, c'était un chameau dans le désert qui portait un jardin fantastique, mais qui avait un masque à gaz, et qui était accompagné d'un petit chien qui avait aussi un masque à gaz.
Oui. Il y avait aussi vous avez pas mal dessiné pendant l'histoire du naufrage du pétrolier Erika aussi, hein, sur les côtes bretonnes.
Oui, j'ai toujours été sensibilisé par...
Vous avez toujours été sensible à ça, donc...
Par la pollution,
Par la pollution. Donc, alors, comment ça s'est passé pour peindre en mer? Parce que vous êtes parti, apparemment, c'était assez houleux, quand même, il y avait beaucoup de mer.
Donc, j'ai pris possession de ma cabine, qui était plutôt sympa, parce que j'ai un petit coin salon et tout, avec des fauteuils. Et j'ai arrimé le fauteuil du préfet avec des tendeurs de vélo. J'avais un patch contre le mal de mer et ça donne extrêmement soif. Donc sur le bateau, on boit beaucoup d'eau minérale.
Oui.
Et je coupais toutes mes bouteilles d'eau vides pour pouvoir mettre de la gouache avec de l'eau à l'intérieur et tout était attaché parce que ça secouait beaucoup.
Oui.
Et j'ai réussi à travailler comme ça, en étant bien secoué. Ouais, juste une fois, il y a un encrier, il y a une vague traîtresse, il y a un encrier qui a sauté en l'air. J'ai eu le temps de rattraper l'encrier, mais pas l'encre.
Pas l'encre. Donc il y en avait un peu partout.
J'ai tout nettoyé.
Et,
voilà.
Et d'ailleurs, dans votre livre, un moment, vous dites, c'est rigolo, vous dites, je comprends mieux pourquoi Pollock qui est peigné dans un hangar. Au moins, ça, c'était plus calme. Donc ça a été. Donc vous avez trouvé les techniques. Vous êtes adapté, hein. Vous êtes bien adapté.
Ouais, je me suis bien adapté. Ouais.
À la vie à bord.
Alors, quand même, je trouvais le temps long, mais j'ai ouais. énormément travaillé.
Ouais,
et puis, tout est rythmé par des... Donc, c'est la Marine nationale. Donc, ouais. C'est un bateau qui appartient à la Marine nationale, enfin, qui est piloté par la Marine nationale, mais qui appartient aussi au TAF, c'est-à-dire aux Terres australes antarctiques françaises, avec des scientifiques,
ouais.
et à l'Institut Paul-Émile Victor.
Ouais.
Donc, il y a à la fois militaire et là, on est parti armé, c'était militaire.
Mm-hmm.
Mais... On a récupéré des scientifiques à Mayotte. On n'est pas descendu à Mayotte parce que déjà à l'époque, donc on était en mai 2022,
oui.
C'était pas conseillé de descendre à Mayotte.
Oui, d'accord. C'était un peu chaud.
Et j'ai adoré découvrir ces îles éparses.
Oui.
Celles où on ne pouvait pas, le bateau, il y avait pas de carte pour ces îles. Elles sont floues, elles sont pas très bien faites parce que déjà il y a longtemps, au XVIe siècle, ils pensaient que c'était des îles, elles étaient flottantes. Ils pensaient pas, donc ils ne les dessinaient pas sur les cartes. Et là, elles sont sur des vieilles cartes. Et malgré tous les instruments modernes des bateaux, c'est assez compliqué pour eux. Et quand ils jettent l'ancre sur le corail, ça rip.
Oui.
On avait du vent. Donc ils sont obligés de garder des moteurs. C'était très acrobatique.
C'est acrobatique.
Sur ces îles, il y a énormément de bateaux qui se sont échoués.
Ah oui,
des bateaux
ouais.
portugais, des bateaux espagnols.
Parce que les fonds ne sont pas très profonds, finalement. Donc
je crois qu'autour de Juan de Nova, il y a 17 épaves.
Ah oui, effectivement.
Deux qu'on voit très bien,
ouais.
et d'autres qui sont sous l'eau.
Donc, vous avez dessiné une carte.
Oui, j'ai dessiné
vous
la carte
dessiné
du,
la carte
du
de,
périple.
Du périple,
ouais.
donc de Madagascar
ouais.
et des îles, donc des quatre îles
ouais.
que vous avez... vous êtes baladé. Vous êtes arrêté dans deux îles.
En fait,
vous avez pu accoster dans deux îles.
En fait, le bateau, lui, a mouillé dans les quatre îles, mais il y avait tellement de boulot qu'il faisait tout par hélicoptère. Donc la première fois que je suis descendu sur une île, c'était Juan de Nova et c'était par hélicoptère. Parce qu'ils amenaient pour les scientifiques, pour les travaux, ils amenaient
ouais.
du matériel
ouais. des choses.
Ouais.
Donc vous avez eu le temps comme ça d'être comme de passer un tout petit
et passer,
peu de temps
une journée puis après j'ai repassé une autre journée sur Juan de Nova.
Sur Juan de Nova, ouais.
J'ai trouvé fabuleuse. Donc c'est une île qui fait c'est une île qui a failli être un comment on appelle ça un club méditerranéen, un club
Ah oui, un club méditerranéen. Donc
ouais, quand, où il a failli avoir des tas de petits bungalows et des petits pontons. En fait, heureusement que
ça a été
arrivé.
Protégé.
Donc c'est une île qui appartient à la France depuis la fin du 19e.
Mm-hmm.
Sable blanc, des coraux, des poissons
Sublime.
partout, des oiseaux et des arbres très très hauts que l'homme a amenés. Alors moi je suis dyslexique, je ne sais pas si on dit des filets à eau ou des filets à eau.
Des filets à eau, oui.
Ou des filets à os.
Oui.
Qui font 35 mètres d'eau.
Ah oui.
Donc il y a une jungle à l'intérieur.
D'accord. Donc on ne peut pas y accéder, en fait on ne peut pas rentrer dans cette jungle, c'est difficile.
Si, à pied c'est fabuleux.
Il
n'y a pas d'animaux... qui puissent nous sauter dessus. Il n'y a pas de crocodile, il n'y a pas de tigre, il n'y a pas de puma, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de danger particulier.
Non, il n'y a pas d'araignée tueuse, il n'y a pas de serpent. Et donc, on est dans la jungle, en pleine tranquillité.
Ah oui, c'est rigolo.
Et donc, il y a des vestiges, parce qu'il y a eu une espèce de colonisateur qui s'appelait Paturo,
oui.
qui s'est fait une maison en corail, indestructible, parce qu'après 2019,
mm-hmm.
il y a eu une tempête terrible, un cyclone, qui a tout ravagé, les arbres sont tombés et tout ça.
Mm-hmm.
La maison, elle a tenu. C'est des pierres de corail. Et c'est un truc...
C'est sublime.
Ça. Ouais, c'est incroyable.
Ça fait penser un petit peu, quand vous en parlez, là, un petit peu à la maison du facteur cheval, non un peu,
Non, parce qu'elle est très sobre, on dirait vraiment. Une villa palladienne presque.
Ouais.
Toutes les dépendances ont été un peu détruites.
Ouais.
Il y a des vestiges de rails. Alors cette île, elle a plein d'histoires, parce que les Allemands ont voulu la prendre... même l'ont prise pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont voulu en faire une base de sous-marins. Mais juste avant qu'ils arrivent, les Français ont détruit tous les rails de chemin de fer qu'il y avait sur l'île, parce que, pour les petits wagonnets.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, le type qui s'était installé sur l'île, il exploitait le guano, parce qu'il y a du phosphate dans le guano.
Le guano, oui.
Ouais, et il avait installé un débarcadère, des rails avec des petits wagonnets pour... Et puis, ils faisaient travailler
Il s'est travaillé des... Ouais.
des gens de l'île Maurice et
Donc,
des
il y avait un peu
Seychelles. Mais
d'esclavagisme.
c'était, il y avait le droit de cuissage sur eux, et c'était horrible. Il y avait une prison, ils les battaient. Enfin, souvent, sur des îles comme ça, en dehors de tout,
Malheureusement,
se
il
révèle
y a des...
un petit dictateur qui fait sa loi.
Et donc, malheureusement, c'est un peu les... Voilà.
Donc là-bas, on voit des tombes de...
On voit des tombes de ces esclaves, en fait.
Il y a des belles tombes, et puis des tombes des esclaves qui sont comme les cimetières militaires, quoi, juste une croix blanche.
Oui, d'accord. Donc ça, vous avez croqué tout ça dans votre livre.
Oui, absolument. Moi, j'ai eu un effroi quand même à Juan de Nova. Hein, à cause de... Parce que moi, je suis assez solitaire, donc je partais tout seul dans l'île. Et je me suis retrouvé dans ces vestiges. C'est comme
tout
faire de
l'urbex.
Pour ceux qui font de l'urbex...
Oui.
Il y a quand même il y a des oiseaux qui font des bruits incroyables, il y a des trucs.
Oui, on s'imagine pas,
ça
effectivement.
Ça peut faire peur.
Ouais, ouais.
Les arbres sont trois fois plus hauts que la maison.
Oui, donc une ambiance un peu.
Il faut passer au-dessus d'arbres qui sont tombés pendant la tempête.
Donc là, vous étiez seul.
Ouais.
Et on vous a permis de partir seul
comme
ça.
Ah oui, j'avais le droit, ouais, bien sûr.
Oui, d'accord.
Voilà.
Et vous avez fait des photos.
Je faisais des photos avec mon iPhone, oui.
Oui. Pour pouvoir ensuite
Dessiner tranquille dans ma cabine.
Dessiner tranquillement dans votre cabine.
Ouais.
On fait une... C'était Véronique Sanson, Vancouver. Je suis avec Nicolas Viel, mon invité de ce soir. Nous parlons de l'Astrolabe. Alors en France, finalement, le soleil ne se couche jamais, Nicolas.
Non, jamais. Jamais, parce qu'on a toujours une petite île française qui est au soleil.
Pendant que nous, on dort.
C'est le deuxième territoire mondial au niveau de la mer.
Oui.
Et juste derrière les États-Unis, mais de très près. Et par exemple, quand vous prenez une des îles éparses, vous prenez un compas sur la carte et vous faites 360 km autour. Mm-hmm. Et 360 km autour, c'est la France.
C'est la France. Ah,
c'est,
ouais.
En tous les cas, on protège. Mm-hmm. C'est des ZEE. Je mm-hmm. crois que c'est des zones d'exploitation exclusive.
Ouais.
Et on protège la faune. On a fait des réserves naturelles de poissons, d'oiseaux, de plantes.
C'est une bonne nouvelle.
La France fait ça, ouais.
La France, oui, finalement, ouais. Ouais, prend soin de ses océans, de ses mers.
Ouais. Et il y a d'autres pays qui aimeraient bien nous reprendre nos îles parce qu'il y a du pétrole dessous, parce que ça les arrangerait.
Et oui, et nous, on se laisse pas faire.
Non, on
se
laisse pas faire. Et nous, on refuse d'exploiter le pétrole et on protège la faune.
Ouais.
Et les gens ne le savent pas, mais... Alors, pour montrer la présence française, parce que quand même, on veut nous les piquer, nos îles, mm-hmm. et depuis longtemps. Mm-hmm. Et il y a toujours 15 militaires dessus. Dans les 15 militaires, il y a un gendarme.
Ouais.
Et il y a une personne supplémentaire, une infirmière. Donc ils sont 16, ils sont relevés tous les 45 jours mm-hmm. Par avion, et ce ne sont jamais les mêmes.
D'accord.
Jamais, jamais, jamais.
Ah oui, donc c'est des
et
gens...
c'est un peu une récompense pour eux, parce que c'est vraiment l'île paradisiaque, hein. C'est
oui.
un truc de dingue.
Ah oui, c'est sublime, donc vous êtes revenu
parce que moi
avec...
j'y suis allé, ouais. C'était l'automne, presque l'hiver là-bas, et
oui.
L'eau était chaude. Au milieu de l'océan Indien, l'eau elle est à 28 degrés.
Ah oui.
Donc... Ce qui posait des problèmes pour le brise-glace, parce que le brise-glace il est fait pour aller en eau froide.
Et oui, c'est
et
ça.
Et il y a le système de refroidissement par eau. Quand l'eau est à 28 degrés, c'est difficile.
C'est difficile à refroidir. C'était une première hein, pour le brise-glace d'aller dans les
eaux.
Non,
il était déjà allé.
Il était déjà allé.
Mais c'est pas son rôle.
Ouais, ouais. Donc vous nous racontiez que vous êtes descendu sur l'île Juan de Nova. Vous êtes parti tout seul avec votre appareil photo, explorer l'île. Vous êtes tombé sur des cases créoles, sur des ruines, sur des
Alors, oui, je suis tombé sur des ruines de la maison Patureau avec les ruines de ses usines, de la prison, des cases, c'était pas des cases créoles sur l'île, hein, c'était des cases faites par Patureau pour loger ses ouvriers esclaves.
Mm-hmm.
C'était des ruines parce que entre le moment où Sylvain Tesson y est allé en 2019 et le moment où j'y suis allé, il y a eu un cyclone et j'ai vu la différence. Hein. J'ai regardé le film qu'avait fait
Sylvain Tesson.
Ouais.
Ouais. Et il n'y avait plus rien.
Non, moi, il y a des arbres qui sont tombés, qui ont écrasé, pas la maison Patureau, qui a tenu,
oui.
Mais qui ont écrasé des tas de dépendances, des arbres de 35 mètres de long, c'est impressionnant.
Ah, oui,
et après, ils sont sur la plage, souvent, ces arbres.
Mm-hmm.
Et puis, ils sont usés par la mer et par le... Et c'est très beau.
Et c'est avec ces arbres qu'ils font des pirogues ou c'est...
Non, ils prennent un bois qui ressemble au balsa, beaucoup plus léger.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Ouais.
Qui flotte.
Ouais, dans tout l'océan Indien, il y a des pirogues.
Ouais.
J'en ai dessiné dans le livre.
Donc ça vous a été, pour vous, c'était absolument tout nouveau.
Ouais, pour moi, tout était nouveau.
Tout était nouveau, donc plein de choses à regarder hyper rapidement, parce que vous n'aviez pas beaucoup de temps à chaque escale. Donc vous étiez obligé d'être
fait,
sur
où,
le vif.
Là où je suis resté longtemps, c'était au départ à La Réunion, puis après au retour à La Réunion.
Ouais.
Et puis on a une grande escale de plusieurs jours à Madagascar.
Mm-hmm.
À Diego Suarez.
Oui.
Et c'est magnifique, Madagascar. Bon, ce qui est horrible, c'est la pauvreté. C'est vraiment très, très pauvre. On a mal pour... Les gens vivent avec 2 euros par jour.
Mm.
On n'imagine pas en France...
Ouais. Donc, il y a une grande plus misère.
Ouais. Par contre, c'est très poissonneux. Parce que moi, j'ai vu des gamins, ils jettent un hameçon à l'eau et tout.
Donc ils mangent quand même, ils ont de quoi manger.
Bah, ceux qui sont au bord de la mer, ils peuvent manger des poissons quand ils veulent, hein, parce qu'il y en a beaucoup.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous a... Alors, vous êtes rempli, pour votre curiosité justement, insatiable, vous, ça a été un imaginaire incroyable, tout ça
Oui, au niveau de l'architecture, par exemple, à Madagascar, il y a deux choses qui m'ont bien plu, c'est les cases créoles.
Ouais.
Et ce qui m'a plu aussi, c'est les ruines de nos colonisateurs.
Mm-hmm.
Ils ont construit d'assez belles maisons qui sont en ruines, sont toutes en ruines.
Oui, il n'y a rien qui... Ils n'ont pas d'argent.
Elles sont habitées, hein, c'est comme un squat, c'est-à-dire quand un carreau est cassé, ils mettent un carton.
On a l'impression que c'est abandonné alors que...
Alors que ça grouille de personnes. Mais c'est très joli. Hein.
C'est un charme fou.
Parce qu'il y a une végétation qui grimpe dessus, et des arbres. Moi, j'adore les végétations
luxuriantes.
Ouais, les tropicales, avec tout un tas de palétuviers et tout ça.
Ouais. On le voit dans vos dessins, en tout cas, c'est plein de couleurs. Et puis, au niveau de la couleur aussi, vous avez dû vous régaler avec la terre de Sienne, avec tout ça.
Il y avait un autre peintre de la marine, il s'appelle Olivier Deveau, avec qui je suis ami. Et lui, il a ramassé de la terre à Madagascar, parce qu'elle était rouge.
Oui.
Et puis, on s'est dit que depuis le temps que c'était au soleil, cette terre, elle n'avait pas l'air de passer trop à la lumière. Mm-hmm. Et il en a fait de la peinture.
Ah oui.
Et il a malaxé la terre avec... Avec un médium, avec...
Ouais.
Et puis il s'en est servi que de pigments.
De pigments, oui. Et donc vous avez plus... Alors vous avez fait des lavis, non, des peintures.
Alors, moi,
assez...
moi j'ai amené plein de techniques, hein. J'avais une énorme valise, j'ai amené trop de choses. Et j'avais tous les matériaux possibles et imaginables.
Ah ouais.
Au début, comme ça secouait trop, j'ai dessiné avec des Posca. C'est-à-dire,
des
Posca, c'est des trucs japonais, on appuie dessus et ça... C'est comme des feutres,
oui.
Sauf que ça balance de la peinture.
D'accord.
Qui ne passe pas la lumière et qui ne traverse pas le papier.
D'accord.
Donc, j'ai dessiné, donc c'est quand même au trait avec des Posca.
Oui.
Et puis quand ça s'est calmé, j'ai commencé à sortir mes boîtes d'aquarelle, et puis mes gouaches, et puis mes encres.
Et oui, au fur et à mesure
que ça... Au fur et à mesure que ça secouait moins.
Oui. Donc vous aviez pu quand même vous exprimer.
Alors,
avec tout ça.
Au début, j'ai dessiné le bateau.
Oui.
J'ai dessiné...
Alors, vous dites que vous avez retrouvé votre trait toujours.
Oui, c'est-à-dire que le côté... moi, j'aime bien Egon Schiele, j'aime bien les types qui dessinent comme ça, mais un peu expressionniste, un peu lâché. J'ai jamais fait un seul trait au crayon, quoi. Tout est direct.
Ouais, d'accord.
C'est des crobards, des fois assez fignolés, hein.
Ouais.
Mais je pars, tchac, tchac, tchac. Tout est balancé, tout est fait à l'arrache. Ce bouquin, il est fait à l'arrache.
Il est fait à l'arrache, ouais.
Tout... on a tout. Mon éditeur a fait avec Sabine Houplin, qui a fait une super maquette, un truc de dingue. Il m'a fait un beau cadeau, quoi, un très beau livre.
C'est un très
beau
livre.
Mais tout s'est fait à la dernière seconde.
Ouais.
Tout. Et là, les livres, ils arrivent, mais ils sont bloqués à la douane en Espagne.
Ouais.
Et ils arrivent demain. Et donc là, je vous ai amené des planches. Et c'est donc là que j'ai découvert aujourd'hui, il y a une heure, mon livre pour la première fois,
livre.
Imprimé, super bien imprimé.
Il est magnifique.
Et alors, très beau papier.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez écrit à l'encre.
Ah, ça, c'est une idée de mon éditeur.
Ouais.
Il m'a dit, puisque tu écris à la plume, c'est vrai que moi j'écrivais à la plume toujours. Il m'a dit, tout le texte, tout ton récit, parce que j'ai un récit de voyage que j'ai fait, tu l'écris à l'encre.
Et oui, c'est un sacré.
En fait, c'était pas si. Ça m'a pris deux jours, quoi. Mais quand même.
Mais c'est.
J'ai une écriture très lisible.
C'est très joli. Et puis le texte, voilà, c'est tendre.
En fait,
plein
je suis la dernière génération. On a appris à écrire à la plume,
à
l'école
plume.
Communale,
ouais.
L'encre violette.
C'est vrai. Ouais, ouais.
Et c'était marrant. Donc, moi, ça m'a beaucoup servi pour dessiner, en fait.
Ouais. Ouais. Du coup, c'est quelque chose de limpide pour vous d'écrire comme ça à la plume.
Ouais.
Ça vous plaît? Ouais.
Ah bon, non, ça m'a bien plu.
Et puis vous avez entretenu alors une correspondance
Oui, alors il y avait un journaliste du Monde qui s'appelle Pierre Julien.
Oui.
Moi j'ai bossé longtemps au Monde, je suis devenu ami avec lui. Quand il a appris que j'allais dans les terres australes et antarctiques françaises, lui, il est membre des TAF. Mm-hmm. Il m'a dit que j'aurais te suivre sur lemonde.fr. Et il a fait, je crois, 18 papiers, ou je ne sais plus si 16 ou 18. Et j'avais le droit de lui parler par satellite.
Oui.
Alors moi, juste avant de partir, j'avais acheté un bel iPhone, le dernier qui venait de sortir, et je faisais des belles photos. Et sur le bateau, personne n'avait un raccord entre mon iPhone et l'informatique du bord. Donc je ne pouvais pas lui envoyer mes photos. Donc je refotographiais mes dessins avec l'appareil du bord, qui lui était mixible avec l'informatique.
Avec l'informatique, oui.
Et donc il a relaté le... Et Pierre Julien, il s'occupe aussi de la philatélie.
Oui, de la philatélie, oui.
Et la particularité des TAF, Terres australes et antarctiques françaises, c'est la philatélie.
Oui.
Ils font beaucoup de timbres. Mm-hmm. Et puis les collectionneurs adorent que les timbres soient tamponnés. Par exemple, sur l'île de Juan de Nova, c'est le gendarme qui tamponne et qui vend les timbres. Et alors, j'ai discuté avec le gendarme, qui était très sympa.
Oui.
Il m'a dit que depuis que cette île existe... On considère qu'il y a eu moins de 1300 personnes qui sont allées dessus.
Ah oui, effectivement, oui. C'était.
Donc depuis
des millions
d'années,
quoi. Pas l'habitude de voir
beaucoup de monde. et en fait, on n'a pas le droit d'y aller. Et donc nous, on avait des naufragés. On a eu des naufragés qui ont été naufragés deux jours avant nous, qui ont cassé dans les coraux, qui ont cassé un catamaran.
Oui.
Ils étaient quatre. Quand on est arrivé, il n'y en avait plus que deux.
Mm-hmm.
Les deux autres étaient partis, on était venus les rechercher.
Ouais.
Et ceux qui restaient pour garder l'épave et toutes leurs affaires, Tout le monde s'est fait tout un roman sur eux parce que d'abord, ils n'avaient pas d'encre. Pourquoi ils n'avaient pas d'encre? Alors, on s'est dit qu'ils avaient balancé une cargaison de drogue, je ne sais pas où,
oui.
et qu'ils comptaient bien la retrouver plus tard. Et puis, ils ne regardaient jamais les gens dans les yeux. C'était les Français, ils parlaient français. J'ai déjeuné à côté d'eux, ils ne nous parlaient pas. Mm-hmm. Ils ne débarrassaient pas à la table avec. Parce que bon, à Juan de Nova, c'était à la bonne franquette, quoi. Il y a des grandes tables, on était avec des militaires.
Tout le monde
participe. Ouais. Et ils ne sont pas mélangés aux autres, ils n'ont jamais parlé aux autres, ils avaient l'air complètement parano. On n'a pas trop su
s'ils
avaient caché un sac dans, dans les arbres.
On n'a pas su. Ouais. Bon,
voilà.
Donc ça fait partie des aventures du voyage.
C'était marrant, ça.
Ouais, c'était assez. Donc, pour revenir au timbre, à cette correspondance, vous avez pendant un mois donc dessiné sur.
Donc, à bord, il y avait une vague-mestre qui s'appelle Mathilde, qui avait plein de rôles, parce que c'est elle qui barrait le bateau, qui faisait plein de trucs.
Ouais.
Mais entre autres, elle s'occupait des timbres, de la philatélie. Mm-hmm. Donc, elle m'a passé des timbres que je n'avais pas réussi à avoir sur l'île, elle m'a prêté des enveloppes. Et j'ai pu faire une correspondance avec ce journaliste du Monde, puisqu'il est philatéliste, pour le remercier. Parce qu'il a fait un portrait du commandant dans le Monde, il a fait plein de trucs.
Ouais.
C'était vraiment bien, quoi. Et par contre, c'est des bateaux, il n'y a pas de communication. Bon, moi, ça m'a fait du bien, comme ça, j'ai débranché d'Instagram pendant longtemps. Ils ouvrent leur. Par satellite, très peu de temps. Donc, ceux qui veulent envoyer des mails peuvent, mais ça part tout à un moment donné. C'est le principe de la marine, quoi, de ne pas être repéré.
Et oui, Donc, surtout, justement, pas utiliser tous ces.
Bon, nous, on était très repérables, parce que notre bateau rouge, il est magnifique, ce bateau. Hein. Mais il est rouge Ferrari. Donc, c'est comme vous disiez tout à l'heure.
Ouais,
c'est moi qui l'aurais fait remarquer. Parce que...
Il fait combien de mètres de long, ce bateau?
72 mètres et 16 mètres de large.
Et donc, c'est énorme, effectivement.
Ouais. Et il a un ventre énorme, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il allait.
Et alors, ce que vous avez aimé sur ce bateau, ce sont les ponts.
Oui, alors j'étais le seul à. Parce que bon, tout le monde travaille, ils sont tous à l'intérieur.
Ouais.
J'étais un des seuls.
Hormis les trois autres peintres.
Ouais, et bon, le seul avec Olivier Deveau, puis un marin qui s'appelait Alex Allard, très sympa, à aller sur les ponts. Et c'est pour moi, j'aime les bateaux de l'époque du crabe-tambour, où il y a plein de ponts et des passerelles et des escaliers. Ben, celui-là, il est comme ça. Et il y a un truc qui s'appelle le nid de pie. Et le nid de pie, c'est la vigie qui est sur le bateau. Et sur un patrouilleur polaire, il se trouve qu'en France, il y a un seul patrouilleur polaire, c'est celui-là, ça s'appelle le nid de corbeau.
Oui.
Et j'étais tout le temps dans le nid de corbeau, là-haut, tout en
tout
haut.
Tout là-haut.
Là où ça bougeait beaucoup, mais j'ai pas le mal de mer.
Oui.
Il y avait une petite cabine, très très haut, ça doublait à la hauteur du bateau, au moins.
Et, donc vous aviez une vue incroyable.
Je voyais très très loin. D'ailleurs, un jour, j'ai vu deux baleines, et je suis descendu 4 à 4. Et le commandant avait réuni tout l'équipage parce que vers 17h, ils font le point. C'est très sérieux. Il y a un silence total. Et j'ai ouvert la porte. Alors, les portes, c'est des portes qui sont faites pour que le bateau chaviré, ça soit étanche.
Ouais.
Donc, c'est des énormes trucs assez durs. C'est physique. Hein. Donc, j'ai ouvert la porte. C'est un boucan de dingue. Je suis rentré. Tout le monde m'a regardé. Et j'ai dit « Deux baleines à bâbord ». Donc, il y a la moitié de l'équipage qui s'est mis à regarder parce que sur la passerelle, là où il y a le commandant, tout est vitré partout.
Mm-hmm.
Tout le monde a regardé. Enfin, il y a une grande partie qui a regardé. Et puis, l'autre partie qui m'a regardé en se disant « Putain, c'est qui ce mec qui a jamais vu de baleine, quoi ?» C'est vrai que la première
c'était
fois...
C'était le Candide sur le bateau.
C'était la première fois que je voyais des baleines. pour de vrai, quoi. J'ai vu comme tout le monde dans les films.
Bon, oui, c'était fini. Ils étaient plus... C'était tellement habitué à voir des baleines que c'était pas drôle.
Voilà.
Alors, est-ce que naviguer, c'est pour vous, c'est comme dessiner? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est comme une page blanche?
Le truc qui est bizarre, naviguer. Là, Thomas Pesquet, il est allé dans un sous-marin là, il n'y a pas longtemps. Il disait qu'aller dans un sous-marin, c'est comme aller dans l'espace.
Oui.
Quand on part, on largue les amarres et on largue vraiment les amarres. C'est-à-dire, on largue tous les emmerdes qu'on a en France, en métropole. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'administratif, il n'y a plus de trucs en retard, de machin.
Donc c'est vraiment c'est une page blanche.
On largue tout pendant un mois. On sait aussi que s'il y avait un problème, on ne pouvait pas vraiment revenir. Parce que.
Ça fait partie du.
Ben non, mais on peut pas. On peut pas revenir parce que non, mais on peut pas parce qu'on est au milieu de l'océan Indien. Il y a pas de. Il n'y a pas de possibilité. Quoi.
Et oui, c'est ça. Vous n'êtes pas prisonnier, mais presque. Donc, il faut que ça se passe bien, en fait.
Moi, j'ai, on est un peu prisonnier, mais moi, j'ai eu le syndrome de Stockholm. Quoi. On est assez copains avec l'équipage.
Oui. Donc, ça a été difficile de vous adapter. Enfin, difficile, ou en tout cas...
Non, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une partie d'équipage qui sait qui on est. Mmh. C'est-à-dire, être peintre de la marine. On est très gradé pour ce qu'on a fait. C'est-à-dire, moi, je suis capitaine de corvette, alors que je n'ai jamais rien fait de...
Donc, on rappelle, il y a l'amiral, c'est ça. Ensuite, il y a le capitaine de frégate.
Amiral, capitaine de vaisseau, capitaine de frégate, et capitaine
de corvette. Voilà.
Donc, en fait, quand on est peintre de la marine, on est gradé. Quand on est ancien peintre de la marine comme moi, c'est-à-dire depuis 2008, parce que c'est à l'ancienneté qu'on monte.
Oui.
J'étais juste en dessous du commandant. Donc, on est très gradé. Mais il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un peintre de la marine. Il y a d'autres personnes de l'équipage
qui
ne comprennent pas pourquoi on est en...
Pourquoi vous êtes là
Pourquoi on est en croisière,
en vacances.
Quoi. Pendant qu'eux, ils bossent comme des dingues. Et puis, à la fin, tout le monde est... Tout le monde nous aime. Tout le monde, on s'entend avec tout le monde. Ils sont hyper sympas.
Ouais.
Ils ont compris que nous, on n'est pas rémunérés.
Donc, en fait, vous partez... Voilà, c'est comme une résidence d'artiste, mais c'est sur un bateau. Voilà.
Ouais.
C'est sur un bateau de la marine.
En même temps, moi, j'avais envie de faire un peu rayonner la marine nationale parce qu'ils font des trucs pas mal. Les gens ne le savent pas, quoi. C'est des gens droits qui sont là pour servir la France. En l'occurrence, là, ils font des trucs écolo. Personne n'est au courant.
Personne n'est au courant, finalement.
Ils sont hyper engagés pour plein de trucs.
Ouais.
Et ils le font bien, quoi.
Ouais, donc vous êtes là pour communiquer un petit peu là-dessus
Ouais, je trouve.
Mais c'est bien, c'est bien de le faire, Donc vous avez... qu'est-ce que ça vous a apporté, ce petit mois, sur ce bateau, au niveau de la créativité, en tout cas, du dessin, de...
Ça m'a apporté une grande liberté de dessin.
Liberté de dessin que vous aviez jamais eu auparavant, c'est quelque chose de complètement nouveau ou pas?
Non, mais
d'avoir cette page comme
en
ça.
En fait, pendant 31 jours, j'ai aucune commande. C'est-à-dire que je peux pas honorer mes commandes.
Ouais.
Et donc j'avais fait des dessins d'avance pour le Chasse-Marée et pour la Gazette Drouot, dont je suis le dessinateur.
Mm-hmm.
Et puis je suis parti, mais si j'avais des commandes, je pouvais pas les honorer. Et puis de toute manière, je regardais pas mes mails. J'ai pas regardé mes mails pendant longtemps. Hein. En fait, on peut survivre sans regarder ses mails.
Finalement, on est bien.
Sans. C'est pas mal.
Ouais. On est très parasité finalement.
Ouais.
Donc vous êtes. C'est quelque chose que vous avez beaucoup apprécié, cette liberté totale.
De
contraintes. Enfin, pas de contraintes en tout cas. Pas les mêmes.
Ouais, pas les mêmes. Et puis tout est organisé. C'est-à-dire qu'on est quand même pris en charge. À midi, il y a le repas. Quand c'est midi, c'est midi. Hein, c'est la marine, c'est pas...
Ouais.
Tout le monde est très à l'heure. Mais ça reste décontracté.
Oui.
Mais eux, les marins, ils avaient une mission difficile. Ils avaient une mission très difficile et ils bossaient beaucoup. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que les types, ils...
C'est quoi la vie des marins sur ce bateau ? C'est pas très marrant ?
Non. En fait, le commandant a fait en sorte que ça soit marrant. Mais c'est pas très marrant parce qu'ils bossent et ils dorment, quoi. Mmh. Et après, ils ont beaucoup de vacances.
Ouais. Mais quand ils sont là, ils sont en mission et ils sont vraiment complètement concentrés.
Et puis, ils faisaient plein d'entraînements aussi, plein de choses comme ça.
Ouais.
On était là aussi pour surveiller les pêches illégales. On était là pour...
Surtout
pour montrer la souveraineté de la France sur nos îles parce que...
Ouais.
Je donne un exemple récent, Madagascar est pour Poutine, et ils sont associés à Poutine, donc Poutine il aimerait bien les avoir nos îles, parce qu'il y a un petit porte-avions dessus, il y a des pistes d'atterrissage, il y a du pétrole, mais c'est pas pour faire exactement la même chose que nous.
Non,
quoi.
J'imagine.
Mais ils y ôtent beaucoup sur nos îles, et on montre que nous on est là, on les laisse jamais abandonner. Quoi.
Ouais, d'accord, ouais, on protège.
Il y a un truc qui est très poétique, moi je trouve ça très poétique, il y a des gens qui vont détester, mais tous les matins... À 6h au lever du soleil, les militaires français font le lever des couleurs. Le lever des couleurs, c'est... Mmh. Donc au milieu d'une île déserte, ils lèvent le drapeau français devant les mouettes, trois crabes qui regardent. Et puis...
chacun sur son île.
Ils sont tous là à regarder, notre île, c'est notre île, on est français. Oui, moi, je sais pas, j'aime bien qu'on ait des îles comme ça, hein, qui servent à rien, qui servent si, qui servent quand même à quelque chose.
Ouais, ouais, qui servent.
Mais c'est aussi assez poétique, hein, de savoir. Moi, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des lieux comme ça.
Ouais.
Quand on est à Paris, là, je viens d'arriver à vélo, dans les embouteillages et tout, la surpopulation et tout ça, de savoir qu'en ce moment, il y a des îles.
Il y a des endroits protégés.
Qui, bah, à la seconde, elle est, Roi de Nova, elle est dans le Loir, mais il y en a d'autres qui sont au soleil. Avec des super couchers de soleil. Il y a des cieux aussi. J'ai découvert des cieux.
Oui.
Et puis j'ai découvert dans l'hémisphère sud que le soleil se couchait toujours à l'ouest.
Oui.
Mais l'ouest était dans l'autre sens.
Eh oui, d'accord.
Et ben ça, c'est pas évident.
Hein. Et c'est pas évident. Ouais, ouais, ouais. Et du coup,
j'ai parlé à un marin.
Oui.
Ça faisait 4 ans qu'il était à La Réunion. Il n'avait jamais remarqué.
Ah, c'est drôle.
Et moi, j'ai remarqué le premier jour.
Ah, ouais, c'est marrant. Ouais. Et donc des lumières magnifiques.
Bah, le soir, des cieux de dingue.
Des cieux,
Sur le moment où le soleil se couche. Bon, j'ai pas vraiment vu le rayon vert.
Oui.
J'ai vu une fois dans ma vie en Normandie, sur un voilier, mais je l'ai pas vu là. Mais j'ai vu des cieux de dingue.
Ouais. Et donc ça, c'est des choses que vous avez retranscrites ensuite.
Un petit peu, il y en a plein dans mon livre. Ouais.
Dans votre livre, ouais. Ça, c'est qu'est-ce que vous aimeriez après ça? C'est difficile, hein, de de partir. De quelle aventure vous rêveriez? Après...
Bah, je repartirais bien sur le même bateau avec les mêmes personnes parce que c'était vraiment sympa, quoi.
Ouais.
Le commandant, le second, le doc, il y avait un médecin sur le bateau. Il était trop marrant. Il me faisait penser à un oncle qui est mort, que j'ai eu, qui s'appelait mon oncle Marcel.
Ouais. Alors,
qui était médecin aussi, qui était entre autres médecin à la prison de Fresnes. Et il me faisait penser la même personne.
Ah oui.
C'est assez drôle.
Et alors, c'est rigolo parce que vous, vos origines familiales, c'est plutôt des généraux d'Empire.
Quand on remonte.
De l'armée de terre.
Quand on remonte en 1800,
Moi,
dans ma famille, ce sont des artilleurs.
Ce sont plutôt des artilleurs. Et là, vous êtes retrouvés. Donc, c'est assez rigolo.
J'ai un ancêtre qui est pas mal. C'est le général Drouot. C'est le mec, le sage de la Grande Armée. Donc, comme tous les autres, il venait de rien. Hein, c'était le troisième enfant d'un boulanger de Nancy, de famille très pauvre. C'est lui qui a dit à Napoléon qu'il ne fallait pas aller en Russie.
Ah oui.
Et non, il a vraiment dit pour de bon, quoi. Il n'a pas dit là où les autres se dégonflent et n'osent pas lui dire. Il lui a dit que c'était la connerie du siècle, quoi. Et ça a été la connerie du siècle.
Effectivement, oui. Ouais. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après Nicolas Vial. c'était Have You Ever Loved a Woman de Dimitri Loisois. Nous sommes toujours avec Nicolas Vial qui vient pour nous raconter son voyage sous les tropiques, dans les brises glaces, et puis surtout pour nous parler de la sortie de son livre
Brise-glace
sous les tropiques qui sort le 7 décembre aux éditions Chêne. Voilà. Alors, on va continuer à parler des découvertes que vous avez faites sur ce brise-glace, sur ce patrouilleur français. Vous m'avez parlé d'un petit oiseau que vous avez prénommé.
Non, c'est un petit criquet.
Un petit criquet.
Jiminy. Quand je suis arrivé sur le bateau, j'étais quand même un peu intimidé. Et la première fois que je suis sorti sur le pont, j'ai vu un passager clandestin. Un criquet, mais un gros criquet en fait.
Oui.
Et c'était bon, je l'ai appelé Jiminy Cricket parce que. Et pendant plusieurs jours, il était là. Je l'ai dessiné. Et puis un jour, il s'est envolé. Le pauvre. Il s'est envolé, mais la terre la plus proche était à 300 km, donc je sais très bien qu'il.
Ouais.
Il n'a pas pu tenir longtemps. Il a cru qu'en volant, il allait pouvoir. Ouais.
Comment il a fait pour arriver sur le bateau alors?
Il est arrivé quand le bateau était
près du Nil.
À l'île de la Réunion.
Oui, d'accord, ouais. Ok. Ah oui, vous avez embarqué avec.
Oui, il est parti avec, quoi.
Ouais. Alors moi, je suis en train de lire, j'ai votre livre sous les yeux, et je lis un proverbe malgache, il ne faut pas se moquer du crocodile avant d'avoir traversé la rivière. C'est terrifiant, ça. Donc, est-ce que vous avez rencontré des crocodiles?
Oui, j'ai rencontré des crocodiles, mais pas dans ces conditions-là. J'ai visité le jardin tropical de Diego Suarez.
Oui.
C'est un jardin où il y a des arbres qui ont 200 ans ou 300 ans, qui sont immenses. Et il y a une source qui passe, qui descend de la montagne et qui passe dans ce jardin. C'est au milieu de la ville.
Oui.
Tout est abandonné. Il y a plein de tessons de bouteilles partout, des trucs. On voit que les gens viennent la nuit dans le jardin, mais c'est privé. Mm-hmm. Et c'est un jardin qui appartient à quelqu'un, d'ailleurs qui habite Paris, je crois. Et qui fait visiter son... Il y a quelqu'un là-bas qui fait visiter son jardin. Il fait des événements.
Ouais.
Et là, il y a une cage où il y a deux crocodiles. Et j'étais scandalisé de la maltraitance animale, parce que c'est deux crocs. Ils vivent dans 10 mètres carrés. Ils ont de la flotte, donc il y a la source. La source qui alimente un peu l'eau, mais il n'y a pas tellement d'eau quand même. Et ils sont là, ça fait... je ne sais pas combien de temps ça vient un crocodile, mais c'est très longtemps qu'ils sont là. Très longtemps, et ils sont en captivité, mais vraiment en captivité, quoi.
Ouais,
et je n'ai pas trouvé ça très drôle, en fait.
Oui, effectivement, c'est un peu bizarre.
Alors, le crocodile n'était pas sur Madagascar à une époque. Il était en Afrique.
Mm-hmm.
Et il y a des crocodiles qui... Il paraît qu'ils se mettent en position de tronc d'arbre.
Oui.
Et qui se sont laissés dériver jusqu'à Madagascar.
Ah, oui.
Et qui sont arrivés là, il y a, je sais pas combien d'années, mais pas si longtemps que ça.
Pas
de 300 ans, quoi. Ou 400, j'en sais rien.
C'est malin, ces animaux. Hein.
Ouais.
C'est très malin. Hein.
Ben,
on a beaucoup à apprendre d'eux, finalement.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez croisé comme autre...
Ben, les animaux qui m'ont bien plu, c'est les fous de Bassan. Là, les fous aux pieds rouges.
Oui.
Il y avait des pétrels. Il y a beaucoup d'oiseaux.
Alors,
dès qu'on s'approche un peu des terres, il y a des oiseaux qui arrivent.
Oui.
Et qui se posent sur le bateau.
Mm-hmm.
Et qui s'en servent de... Et c'est assez sympa.
Ouais. Vous avez pu dessiner, croquer les...
J'ai pas tellement... je les ai beaucoup regardés. Je les ai filmés aussi avec mon iPhone.
Ouais.
Je n'ai pas tellement dessiné d'oiseaux, non.
Non, ça ne vous a pas trop
inspiré. Si, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais. J'ai dessiné des pêcheurs que j'ai vus à...
Donc, en fait, vous avez beaucoup dessiné des... Ce que vous aimez beaucoup, c'est les ruines.
Ah, moi, j'ai toujours adoré les
ruines.
Vous
avez toujours adoré ça.
C'est le truc...
Ouais, c'est votre enfance. C'est votre enfance.
En fait, derrière la maison de mes parents, quand j'étais petit, il y avait une usine abandonnée depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Mm-hmm.
Et qui est une structure en bois et métallique, avec une cheminée, avec un train, avec des rails. Le tout sur la végétation luxuriante, en terrain vague. Et mes parents vivaient à la campagne, dans une ville qui s'appelle Dourdan.
Oui, sud de Paris.
Et entre la maison de mes parents et la forêt... Il y avait cette usine. Et donc, tous les gamins du quartier, on se retrouvait tous les jeudis et tous les soirs et les week-ends.
Mmh.
On faisait des conneries incroyables.
Mmh.
Les parents ne savaient pas. Ils ne pouvaient même pas imaginer tout ce qu'on faisait.
On avait plus de liberté. Hein.
On prenait des risques dingues parce qu'on montait en haut de la cheminée d'usine. On revenait, on était noirs dessus, mais les parents, ils ne demandaient pas ce qu'on avait fait.
Ouais.
Et... Il nous disait d'aller nous nettoyer, quoi.
Ouais.
Mais
Et j'ai vu aussi que dans votre imaginaire, vous aviez justement cette maison de Dourdan, cette maison de vos parents. C'était, vous imaginiez que vous étiez dans un bateau, en fait. Dans un...
Ah oui, la maison c'est de mes parents du côté Vial, ouais, c'est pas, parce qu'il y avait deux maisons du côté de ma mère. Ouais. Du côté Vial, parce que du côté de ma mère, c'est les architectes depuis trois ou quatre générations. Et ouais, ça ressemblait comme à la pointe de la douane à Venise.
Oui.
Parce que c'était une fourche. Hein.
Oui.
Et
ça vous évoquait.
Souvent, j'imaginais que cette maison était dans l'eau. Ouais.
Donc, vous aviez tout un imaginaire comme ça. Vous dites, c'est Rilke qui dit l'enfance est un destin, c'est ça. Vous étiez...
Dans l'atelier où j'habite, là, rue Campagne Première, Rilke a habité longtemps.
Ah oui.
Et beaucoup d'artistes de Montparnasse. Et Rilke, et pareil que dans les couloirs, quand on entendait mal jouer du piano, c'était Rilke.
C'était Rilke.
Il paraît qu'il jouait beaucoup, mais très mal.
Très mal. Dommage pour les voisins. Donc aujourd'hui, si vous aviez deviez repartir, si vous aviez envie de repartir, où est-ce que vous partiriez? Parce que vous avez toujours cette curiosité qui est insatiable. On sent que vous avez soif.
Je tenterais bien l'Antarctique.
Oui.
Sur le même bateau.
Cette fois-ci, oui. Ouais, un peu au nord, mais... un peu dans la glace.
Donc, au pôle sud, quoi.
Au pôle sud.
Ouais. Mais dans ces conditions-là, c'était très bien, ouais.
Ouais.
Mais sinon, non, je ne suis pas très demandeur de recommencer. Parce que le temps est long, parce que au début, on se demande ce qu'on fout là, quand même. Hein.
Ouais.
Avant qu'il y ait des escales et tout, c'est pas facile.
Ouais. Ouais.
Et puis après, quand on revient, on trouve ça génial.
Ouais, c'était génial. Donc, comme vous dites, vous avez eu un espèce de syndrome de Stockholm, vous aviez plus envie de vous quitter.
D'ailleurs, je suis toujours copain avec le commandant, on communique, il est à la Réunion, on s'envoie des WhatsApp.
Donc, c'était une très belle expérience.
Très belle expérience, ouais.
Ben écoutez, on arrive à la fin de l'émission déjà, Nicolas Vial. Je vous remercie infiniment d'être venu.
Et je vous remercie à vous, Anne.
Ben je vous en prie. Et je ne serai que conseiller à tous nos auditeurs d'aller se procurer ce magnifique livre, Un brise-glace sous les tropiques aux éditions Chêne, donc qui sort le 7 décembre, donc dans 15 jours. Voilà. Donc
ça... j'ai la chance d'avoir... Une superbe
avec une belle préface de Sylvain Tesson, voilà l'écrivain, donc une magnifique préface. Donc un très très beau livre à offrir pour Noël. Et on vous souhaite encore beaucoup de belles aventures et beaucoup de magnifiques dessins, peintures à nous montrer, Nicolas Vial.
Ben, je vous remercie.
Merci de nous avoir raconté toutes ces histoires. Merci pour cette transmission. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci aux techniciens, à Mazir, à Madaïne, à Axel Aubry et à Raphaël Capdeville. J'étais un peu... When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. I know it's gonna be a love.